Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous qui commence à 9h. Nous avons parlé du Paris Saint-Germain. Faut-il être indulgent avec le PSG? Un débat assez animé ici dans le studio RMC. N'hésitez pas à aller le réécouter un petit peu plus tard en podcast tranquillement. Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Beneteau, Fred Weiss. Alors après Yannick Sinner, c'est au tour d'Igaz Swiatek, autre grand nom du tennis mondial, d'être contrôlé positif. Le tennis a-t-il un problème avec le dopage? On s'empare du sujet dans quelques instants. Je voulais me faire du mal. La phrase choc de Pep Guardiola après le nul invraisemblable de City en Ligue des Champions cette semaine. L'un des meilleurs coachs du monde s'est présenté devant la presse, la mine défaite, le crâne marqué. Faut-il plaindre les entraîneurs? Ça tombe bien, nous avons Pascal Duprat avec nous. Et puis un capitaine qui gère une équipe, c'est Julien Beneteau. Et puis 10h45, le procès de la séquestration de Paul Pogba, ça a débuté mardi. Nous vous raconterons les quatre premiers jours de ce procès assez hallucinant et édifiant. Mais pour débuter cette nouvelle heure, mes chers GG, mes chers auditeurs, je vous propose un proverbe chinois. Voici ce qu'il dit. Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament.
RMC, le bras de fer GG.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné.
C'est de la potion magique?
Non, c'est de la soupe de marron.
Il lève les bras aussi à Yannick Sinner, il remporte l'US Open.
André Colbois qui possède le secret d'une potion magique qui donne une force surhumaine. Elle donne une force, mais d'une force.
Ladies and gentlemen, your 2022 US Open Women's Champion, Iga Swiatek.
Non, mais l'expat, toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit.
Votre deuxième, le retour de Kenin est dedans. Et là, Swiatek a une bonne patate en coup droit, et voilà!
Accélération de coup droit.
J'ai justement rapport à cette potion magique.
Elle fout de rien n'était.
Roland Garros à 19 ans.
Ah, ça y est, elle est en train de se rendre
compte. Elle a les bosses sur la fauche.
Les doigts sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On ferait peut-être mieux d'abandonner.
Tout simplement trop forte. Iga Swiatek. La Polonaise écrit son histoire. L'histoire de ce tournoi avec ce quatrième titre ici à Roland-Garros.
C'est pas correct.
C'est un nouveau tremblement de terre dans le monde du tennis. Après Yannick Sinner, numéro 1 mondial, Iga Swiatek, numéro 2 mondial, a été contrôlé positif. C'était en août dernier, hors compétition, après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. La substance en question, la triméthadizine, pardonnez-moi, utilisée pour prévenir l'angine de poitrine. Des traces infimes ont été retrouvées dans ses urines. La quintuple vainqueur de Grand Chelem a été suspendue. Un mois, le tennis a-t-il un problème avec le dopage? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée ce matin par Christophe Cessieux et Fred Weiss. Dans le coin droit, la team Non, Julien Beneteau, Pascal Duprat. Alors avant de débattre, de vous donner déjà un aperçu, une tendance de notre estimation sur le compte X des grandes gueules du sport, on va retrouver notre spécialiste tennis sur RMC Sport. C'est Anthony Reich. Bonjour Anthony.
Bonjour à tous.
Alors déjà, il faut dire quelque chose, c'est comme Yannick Sinner, ce contrôle positif a été révélé quelques mois plus tard.
Oui, une procédure totalement secrète, comme d'habitude avec l'ITIA, l'agence qui gère les contrôles anti-dopage dans le tennis mondial. Rappel des faits, le 12 août, comme tu le disais, JC, Iga Swiatek est soumise à un contrôle anti-dopage hors compétition qui la révèle positive à la triméthadizine, dit TMZ. Elle est prévenue des résultats le 12 septembre, ce qui explique notamment qu'elle a pu participer à l'US Open sans autorisation thérapeutique. Swiatek est alors suspendue provisoirement et ne peut donc pas participer à trois tournois de la tournée asiatique, pour lesquels à l'époque elle déclare forfait, je cite, pour raison personnelle. Le 22 septembre, elle fait appel de cette décision auprès d'un tribunal indépendant. Elle donne alors l'explication. La mélatonine, un médicament pour le trouble du sommeil, acheté en Pologne dans une pharmacie, a été contaminée par cette fameuse TMZ, explication validée par ce tribunal et l'Agence mondiale antidopage. La suspension provisoire est alors levée. Swiatek peut terminer la saison normalement. Le 27 novembre dernier, elle est informée d'une suspension d'un mois dès l'officialisation. La numéro 2 mondial prend la parole dans une longue vidéo sur ses réseaux.
Cette expérience la plus dure de ma vie m'a beaucoup appris. Tout ça va rester durant toute ma vie. Revenir m'entraîner après une situation comme celle-là qui m'a presque brisé le cœur va me donner de la force. Il y a eu beaucoup de pleurs et de nuits sans sommeil. Le pire, c'était l'incertitude. Je ne savais pas ce qui allait se passer et comment tout ça allait finir. J'ai dédié ma vie pour avoir une carrière qui pourrait être donnée en exemple aux générations à venir en respectant les valeurs du sport.
Alors les 3 semaines de suspension provisoire deviennent désormais de la suspension ferme avec cette sanction définitive que la numéro 2 mondiale, je cite, a acceptée selon Litia. Il lui reste donc 1 semaine à purger jusqu'au 4 décembre, période sans tournoi et donc sans contrainte pour elle.
Merci beaucoup Anthony Reich, tu restes avec nous pour ce débat, pour un complément d'information. Le tennis a-t-il un problème avec le dopage, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio? Il n'y a pas de débat pour vous les auditeurs. On vous a posé donc la question sur le compte X des grandes gueules du sport. 85% oui, il y a un problème avec le dopage. 15% non. Julien Beneteau, Pascal Duprat, vous avez du boulot. Julien, évidemment spécialiste tennis, on commence avec toi. Pourquoi non?
Je pense pas que le tennis en lui-même a un problème avec le dopage. Je pense que le problème, c'est l'ITIA. C'est la communication qu'il y a autour de ces cas, la différence de traitement qu'il y a autour de ces cas.
Qui laisse place au doute, c'est ça?
Bien sûr. Et que c'est mal géré, que c'est mal communiqué et que ça suscite l'interrogation et que je comprends qu'il y ait 85% du public, enfin des auditeurs sur X qui pensent que le tennis a un problème avec le dopage. Quand on pose la question, le tennis a-t-il un problème avec le dopage, on peut se dire, tiens, est-ce que ça veut dire que une partie des 100 premiers mondiaux est dopée, que l'ATP, la WTA camoufle tous les joueurs positifs, qu'il y a un vrai système organisé, etc. Ça, c'est impossible. Moi, j'y étais dedans. C'est impossible. On est contrôlé tout le temps, très souvent. Beaucoup de contrôles inopinés. C'est-à-dire que, en tournoi, quand on fait une performance, on sait qu'on est contrôlé. Mais le nombre de contrôles inopinés chez nous, à notre domicile, en période hors tournoi, notamment en France avec la FLD, moi, j'en ai eu, on en avait entre 8 et 10 par an, en plus de contrôles. Donc, il y avait une quinzaine, une vingtaine de contrôles par an pour un sport individuel itinérant. C'est assez conséquent. Donc, je pense pas qu'il y ait un dopage
organisé
évidemment. Alors, après, l'ITIA, il faut vraiment qu'aujourd'hui, il y ait une harmonisation au niveau de la communication, au niveau des sanctions, entre l'appel. Est-ce que c'est suspensif, pas suspensif, tel produit, combien de temps c'est, etc. Là, on a l'impression qu'en fonction
du classement.
Exactement.
C'est au petit bonheur la chance, quoi.
Et encore.
Est-ce que t'es sûr de cette impression-là? Parce que moi, je crois pas capable, un organisme aussi important et qui a été par délégation, imposé par la Fédération internationale de tennis, puisse permettre des cas particuliers. Alors, c'est pas possible.
Je suis d'accord avec toi. J'en suis pas sûr, Pascal, parce que j'allais prendre le contre-exemple. C'est Simona Halep, qui a été quand même numéro 1, numéro 2 mondial et qui est un grand nom du tennis féminin et qui, elle, quand elle a été contrôlée positive à une substance, n'a pas eu la même mensuétude, ou en tout cas
4 ans.
Voilà,
4 ans, ça a été réduit à 9 mois. Mais 9 mois, c'est pas un mois. Hein,
mois, c'est pas un mois. Alors là, dans le cas de Ziatek, pourquoi c'est un mois aussi? C'est-à-dire qu'hier, je suis allé lire ce qui se dit sur la TMZ en question. Il y a beaucoup d'experts qui et notamment avec la dose trouvée, qui disent. Mais à aucun moment, ce produit peut améliorer la performance. Et pour moi, le dopage, ça part de là. C'est on prend un produit pour améliorer la performance. Et qui plus est, qui est interdit. Pour moi, c'est ça, le dopage.
Bon, après, le produit interdit est interdit. C'est comme ça. C'est la base du dopage. Peu importe si te fait à avoir des performances meilleures ou pas.
T'as raison.
Sur le principe,
s'il est interdit, il est interdit. T'as raison, Fred. T'as raison. Quand il est interdit, il est interdit. Mais alors, voilà. Pourquoi il est interdit? On en parlait hors antenne. Les laboratoires sont de plus en plus performants et les microdoses sont
détectées,
sont de plus en plus détectées. Et tant mieux, parce que ça veut certainement dire qu'il y a certains athlètes dans plein de sports qui peuvent utiliser des produits interdits pour améliorer les performances sur des microdoses, et ça, ils passent à travers les mailles du filet. Et donc parfois, il y a des cas où on se retrouve positif. Et la communication qu'en est faite, on sent que l'ITIA, elle patouche totalement. Et c'est ça
le fond du problème, c'est la communication, c'est pas le dopage.
Mais est-ce qu'on peut reprocher
cette... Pour moi, c'est la gestion du dopage.
Ouais.
Oui, l'opacité de la communication, on peut pas leur reprocher d'être opaque sur la communication. Ils attendent que les comment dire les
non, bah si, par
l'appel soit fait, qu'il y ait les résultats pour ensuite communiquer. Est-ce une faute pour autant de communiquer?
Ça là-dessus, c'est pas une faute, Pascal. Mais regarde bien ce que dit l'ITIA. Une fois que tout le process a été fait, Iga Ziantec accepte la suspension.
Oui.
Il communique comme ça. Mais une fois que tout est fait, que c'est prouvé qu'elle est positive, échantillon B, échantillon A, échantillon B, etc. Mais Swiatek, elle n'a pas accepté la sanction. C'est normal qu'elle soit sanctionnée.
Bah oui.
Et rien que ça, c'est ce problème de communication. Enfin, ce serait pas.
Mais cela dit, elle devait être au courant en amont, puisqu'elle a arrêté trois semaines.
Mais elle était suspendue.
Mais il n'y avait pas de communication.
Elle a été, sa suspension a été levée, c'est-à-dire qu'elle a pu faire deux, trois tournois, et on lui a remis une petite semaine.
Exactement.
Une semaine où il n'y avait pas de tournoi.
Parce qu'elle n'a pas perdu.
C'était une sanction aux petits oignons.
Et pendant ces tournois, juste pour préciser, après je te donne la main, Fred, pour ces tournois en Asie, on ne savait pas pourquoi elle n'était pas présentée. Elle a dit qu'elle avait des difficulté, qu'elle était un peu blessée.
Sinner a pris 5 mois de suspension. Enfin, on l'a appris 5 mois plus tard.
Ouais.
On ne savait pas pourquoi.
Et pour le coup, je
suis désolé, mais quand tu as un numéro 1 mondial, moi j'aimerais qu'on nous dise. Alors peut-être qu'il y a des excès dans la justice courante et que des gens qui sont mis en examen sont montrés du doigt parce que leur affaire sort. Mais ça permet aussi aux gens de débattre de ça, d'avoir des avis contraires, faire tout en silence et
propre aussi.
Non.
Ce sont des sportifs de haut niveau.
Non, mais alors, par exemple, sur le cas Sinner,
ça la jette plus à posteriori, je trouve.
Moi j'aimerais poser.
Je suis d'accord avec Christophe. Mais sur le cas Sinner, par exemple, je connais une personne qui travaille, qui est au board de l'ATP, et qui m'a dit le CEO de l'ATP a appris deux jours avant. Le cas positif de Sinner deux jours avant que ça ne sorte,
cinq mois plus tard.
C'est un vrai problème de communication.
C'est
la gestion qui semble tellement amateur. L'opacité des contrôles, on comprend pas. Les suspensions, ils sont suspendus, personne ne sait. Qu'est-ce qu'elle a dit, Swiatek? Elle a dit, non, mais c'est un problème personnel. Mais non, c'est un vrai problème. Quand on parle de dopage et de problèmes de dopage, dans tous les sports, il y a des problèmes de dopage. Sauf que, être aussi opaque, ne pas dire les choses, ne pas expliquer,
ça renforce la suspicion.
Exactement, il y a des suspicions énormes. Et on a aussi l'impression des deux poids deux mesures. On en a parlé tout à l'heure, les deux poids deux mesures. Et quand Lama retoque Litia, tu te poses des questions.
L'agence mondiale antidopage.
Ce que disait Pierre Bordry, qui est l'ancien président de la FLD, au sujet de Litia. Il dit c'est le seul sport, le tennis, où il y a une instance propre à une discipline. Non, c'est Jean-Pierre Verdi, l'ancien patron des contrôles de la FLD, qui dit ça. C'est le sport à part, mais personne ne dit rien. Le tennis est une anomalie. On ferme les yeux pour la beauté de ce sport, mais la face cachée est terrible. On s'est battu bec et ongles pour faire des contrôles, mais on a toujours reçu un non catégorique de Litia. Il ne fallait pas mettre les pieds dans le plat parce que ça faisait des ordres. En quelque sorte, on a l'impression que cette instance indépendante
qui couvre le dopage et le
fait à sa sauce, quoi. On s'arrange entre amis,
bien sûr.
Et surtout, faut pas que ça fasse de vagues. Mais alors, moi, je pense que
j'arrive pas à croire ta théorie du complot.
Ces choses-là, ce genre de choses, a été fait par des fédérations après les scandales qui ont touché le monde du vélo. Le vélo s'est tiré une balle dans le pied en dévoilant les choses dans les années 90 et a souffert et continue de souffrir terriblement de ça derrière puisque son image est complètement dégradée. Et je pense que les autres fédérations ont vu ça et savent qu'elles peuvent elles aussi être touchées par des problèmes de dopage et donc ont essayé de mettre en place des systèmes pour éviter que ça parte
en sucette. Mais ça n'attise pas la suspicion justement, le fait que ça soit aussi opaque,
mais complètement. Moi, je suis d'accord avec Julien, je pense pas que le tennis ait un problème particulier
avec le dopage. Pas plus que les autres.
Je pense pas que Swiatek était dopé. Son produit, effectivement, c'est pas un produit qui améliore la performance.
Oui, sauf que la façon de le gérer.
Mais cette façon de cacher les choses,
tout à l'heure,
ça jette le doute sur cette fédération et sur le tennis.
Complètement d'accord.
Pascal Duprat.
Non, je pense que au contraire, à terme, à condition bien sûr que les sanctions soient uniformisées, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures, le fait qu'il taise jusqu'au dernier recours du joueur incriminé, qu'il taise des sanctions encourues, je pense que c'est une bonne chose. Mais moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression, je sais pas avéré ce que je dis, je m'en remets à Julien, j'ai l'impression que souvent on entend, on lit qu'il y a deux poids, deux mesures. Ça me surprend. Mais l'opacité de la communication de la sanction, moi, ça me surprend pas, bien
donc,
au contraire.
Quelqu'un qui est suspendu trois semaines et qui prétexte des problèmes personnels, alors que ça n'a rien à voir.
Non, il est dans cette période-là suspendu à titre conservatoire. Charge à lui de prouver son innocence.
Non, mais l'ITIA, oui. Oui, d'accord, mais alors c'est là où je pense que l'ETIA, et je parle sous le contrôle d'Anthony, avec la WTA, pour éviter justement ces suspicions, tournée asiatique, Wuhan, Pékin, etc., Iga Świątek, elle est forfait. Pourquoi ? Si le règlement, c'est... Elle est contrôlée positive.
Je suis d'accord avec toi.
Il y a une suspension provisoire. Provisoire, ça veut pas dire qu'elle est, mais le règlement fait que elle ne peut pas jouer en compétition à ce moment-là. Il y a l'enquête qui est en cours, il y a les examens qui sont en cours.
Je veux dire, c'est l'opacité. Exactement, mais
il communiquerait comme ça. Elle a été contrôlée, elle se défend, mais pour l'instant-là, elle n'a pas le droit de jouer, donc elle est suspendue à titre provisoire. Bon, bah, déjà, ça changerait beaucoup de choses.
Anthony Resch.
En fait, l'ITIA, si vous voulez, se cache derrière une règle du Code mondial antidopage qui est toute simple. Il n'y a aucune obligation de communiquer tant que la procédure n'est pas terminée et que la sanction n'est pas validée. Et voilà. Et ensuite, il faut savoir.
Il n'y a que dans le tennis que c'est comme ça, hein, Anthony. Hein, parce que
mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans l'athlétisme, par exemple, au moindre contrôle, on le sait tout de suite. Ouais. Et l'ITIA, il faut savoir, c'est une émanation d'une réflexion qui est née en 2016 suite au scandale, vous savez, à l'enquête britannique sur les scandales de matchs truqués dans les tournois du Grand Chelem. L'ITF, l'ATP, la WTA se réunissent en réunion de crise à Melbourne à l'époque pour créer une entité indépendante de l'ITF et de l'ATP et de la WTA. Et à la base, l'ITIA, c'est pour lutter contre la corruption dans le tennis. Ce n'est absolument pas pour lutter
contre le dopage.
Et au fur et à mesure, cette structure est devenue indépendante. Plus aucun organisme, aucun organe du tennis mondial n'a de contrôle sur l'ITIA. Et ils ont pris en charge le sujet du dopage à partir de 2020. Donc c'est tout récent.
De
et
façon ils font très ce amateur pour l'instant.
Et c'est très intéressant que tu nous donnes cette précision. Je voudrais vous lire cette...
Ça apporte de l'eau quand même au moulin pour dire que... On peut pas trop camoufler. Parce que là, de ce que nous dit Anthony, c'est que depuis 2020, l'ITIA n'a plus aucune relation ou directe ou indirecte avec les instances du tennis, c'est-à-dire à l'ATP, WTA,
en fait au bord de l'ITIA, il y a un représentant de l'ATP, de la WTA, de la Fédération internationale, mais in fine, ils n'ont aucun pouvoir décisionnaire majeur sur ce que l'ITIA projette comme politique, etc. Et il faut savoir que l'ITIA, ce sont des juristes, des spécialistes de certains pays qui étaient dans des organes antidopage, mais ils font appel pour les procédures et les contrôles à des spécialistes, à des agences type la FLD en France, par exemple, quand il y a besoin pour Roland-Garros, mais ils n'ont pas leur propre service d'antidoping.
Phrase très intéressante, c'était dans le journal L'Équipe du directeur général de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, Olivier Negli, qui dit « Aujourd'hui, il y a un problème de contamination. Ce n'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est que les laboratoires, et c'est ce que tu disais Julien, sont plus performants en détectant des quantités infinitésimales. Les quantités sont tellement faibles que vous pouvez vous contaminer en faisant des choses anodines. Mais la réalité, c'est qu'on entend plein d'histoires, et je comprends le public qui trouve que nous gobons tout. Et si on voulait se simplifier la vie, on mettrait des seuils. La question qui se pose, est-ce qu'on est prêt à accepter le micro-dosage.
Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que effectivement, les laboratoires sont de plus en plus performants, mais les dopés sont aussi de plus en plus performants et ils utilisent des micro-doses de PO ou d'autres choses comme ça qui sont quasiment indétectables, qui disparaissent très vite de l'organisme. Et donc, c'est la lutte du gendarme et du voleur. Et donc, si tu fais des trucs de plus en plus pointus,
sur certains produits, est-ce que
il faudrait un seuil pour dire en dessous de ça, même si vous êtes positif, on n'améliore pas la performance.
Pascal, on va parler d'une autre façon de se doper qui est en train de se développer dans le vélo.
Le monoxyde,
de carbone. Tu verras. ça développe un EPO endogène en utilisant un gaz qui peut être mortel.
Et on en parle.
Les mecs sont prêts à tout.
T'es d'accord avec moi que c'est dommage que ça soit encore le cyclisme qui découvre ces nouveaux procédés. C'est dommage.
Mais les dopants,
on en parlera demain, les copains.
Plus pointus, il faut le savoir.
Ce sera avec Jérôme Pinault et Marc Madio. Donc soyez bien présents avec nous. On a envie d'avoir des spécialistes pour parler de ça. Juste Anthony Resch, il y avait une précision.
Oui, sur la trimétadizine, le produit qui est interdit, c'est interdit depuis 2014. Et ce qui peut expliquer la longueur de cette sanction d'un mois, c'est qu'en fait, comme tu le disais, Julien, tout seul, ce produit n'est pas dopant. Il est juste interdit depuis 2014 par l'Agence mondiale antidopage. En revanche, aujourd'hui, rien ne prouve que si on le mélange à un autre produit, voilà, là, est-ce que on ne sait pas encore si ça peut permettre sensiblement d'augmenter la performance. N'oubliez pas quand même que le nageur chinois Sun Yang, qui a été suspendu en 2021, a 4 ans, a été contrôlé positif à cette
molécule.
Oui. Et c'était souvent justement bien des sportifs asiatiques qui prenaient et qui pouvaient prendre ce médicament et cette substance, et ça arrive de plus en plus en Europe et donc notamment en Pologne avec ce cas d'Iga Świątek. Merci beaucoup Anthony Resch d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat et pour nous éclairer aussi sur cette substance. Sachez que nous sommes à 86%. Oui, c'est un problème. Le tennis a un problème avec le dopage. 14%. Non, mais en tout cas, c'était très intéressant de vous écouter, mes GG. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de l'auto-mutilation de Pep Guardiola cette semaine. À tout de suite.
10h33. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
On peut plus annoncer l'heure tranquille. 10h33. Bah oui, je suis pressé. Bah, je suis bien avec vous. Alors, j'ai envie de reprendre l'antenne en direct. Les grandes gueules du sport le samedi et le dimanche avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Julien Beneteau, Pascal Duprat. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. On va vous parler du procès de la séquestration de Paul Pogba qui s'est ouvert mardi. On vous racontera les derniers éléments. Et évidemment, les GG, vous pourrez nous donner votre avis, votre sensation sur ce procès assez incroyable qui est en train de se dérouler à Paris. Ça, ce sera dans 10 minutes. Des traces de griffures sur le visage et le crâne de Pep Guardiola, c'est l'image choc de la semaine. Mardi soir, City s'est un peu plus enfoncé dans la crise après un nul incompréhensible, hein, il faut bien le dire, à domicile face à Feyenoord, alors que les Citizens menaient 3-0 à la 74e minute. Pep Guardiola et ses hommes restent sur une série incroyable pour eux, hein, de 6 matchs sans victoire. Interrogé sur ces marques, sur le crâne, voici ce qu'a répondu l'entraîneur espagnol en conférence de presse.
Ouais, avec mes doigts, je me suis fait ça. J'ai envie de me faire du mal.
Un ton un peu léger employé par Pep Guardiola qui n'a pas plu. Il a dû clarifier ses propos dans un communiqué. Voici ce qu'il dit. Ma réponse n'avait aucunement pour but de minimiser la question très sérieuse de l'auto-mutilation. Le mot est lâché. Auto-mutilation. La souffrance des entraîneurs mise en lumière après cet épisode. Antoine Camboire, l'entraîneur de Nantes, s'est invité dans le débat en conférence de presse. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
C'est plus facile pour moi donc de parce que je vis avec ça moi. J'ai construit ma carrière donc à travers donc toujours l'idée donc de me battre, de m'accrocher. Voilà. Et puis après quand je suis passé entraîneur, ben, j'ai vécu des situations où là j'ai été démis de mes fonctions, mais je me suis toujours relevé et tout seul j'ai toujours tracé mon chemin quoi. Quand je rentre chez moi, je sais couper. Mais il y a des gens plus malheureux que moi, hein, plus malheureux que nous, quoi. Moi, j'adore mon métier, je suis passionné par ce que je fais. Et aujourd'hui, bien sûr que, je peux pas vous mentir, hein, peut-être que je dors un peu moins bien, tout ça et tout. Mais quand j'arrive à la maison, j'essaie de couper, quoi.
Et voilà, on est quand même bien lotis. C'est ce que veut nous dire Antoine Camboire. Et faut-il plaindre les entraîneurs? La pression due à leur métier, oui ou non? Christophe Cessieux.
Non, pas plaindre les entraîneurs, quand même. Il y a d'autres gens à plaindre avant.
Pascal Duprat.
Non.
Julien Beneteau.
Non.
Fred Weiss.
Non.
Tout le monde pense que non. Mais vous avez le droit de tous penser que non, les copains. Un peu déclarable.
C'est un beau débat, ça.
Mais on n'est pas.
Surtout que c'est le mauvais exemple, Guardiola.
Ah bah vas-y, dis-nous, Pascal, tu commences.
Bah, Guardiola, il n'a pas l'habitude de perdre 5 matchs consécutifs et un match nul alors qu'il mène 3-0. Il gagne toujours. Si on doit parler, et c'est mérité, hein, moi, il n'y a pas d'envie hein, dans ce que je dis. Mais Guardiola, c'est le monde des bisounours des entraîneurs. Il commence à Barcelone, il passe par le Bayern et il va à Manchester City. Il dépense l'argent qu'il veut chaque année, il a les joueurs qu'il veut, les meilleurs effectifs qu'il veut, il gagne des matchs plus souvent qu'à son tour. Bon, on va pas.
On sent
pas
une petite pointe de jalousie quelque
non,
part.
Mais non, mais on va pas dire, on va pas. Non, mais c'est le mauvais exemple. Si tu m'avais dit, je sais pas, moi, un entraîneur qui perd souvent, ouais. Hein, qui est malheureux, qui s'automutile, j'arriverais à le comprendre, mais pas Guardiola.
Mais alors,
bon, il se trouve que Guardiola, il avait certainement un ongle qui était un peu écorché. C'est gratté la tête où il y a son chat en regardant la télé, qu'il a griffé, et puis on en fait tout un fromage. Cependant, ce que dit Antoine est plus proche de la réalité. Mmh. C'est compliqué, mais on pleure pas sur notre sort. Il y a beaucoup plus compliqué comme vie que la nôtre.
Mais surtout si tu veux pas, tu arrêtes
Tu as ton libre arbitre. Ou autrement, j'aurais du mal à comprendre pourquoi serait suffisamment fada pour, une fois qu'on est sans club, au bout d'un mois ou deux, passer la bonne vie tranquille, au bout d'un mois ou deux, le métier te manque et t'es comme un lion en cage. Donc si c'était si dur que ça, si éprouvant que ça, si on n'avait pas la capacité à gérer,
tout le monde, c'est des gens qui sont faits différemment, étaient bien placés pour le savoir. Tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'est pas à même d'être entraîneur. Et c'est sur ça que, évidemment, qu'on va pas les plaindre, parce qu'encore une fois, t'as le libre arbitre, tu peux décider de t'arrêter. Sauf que c'est des gens qui ont cette capacité. Il faut quand même reconnaître la difficulté. Il faut être résilient. C'est un métier où t'es très souvent seul. C'est un métier de passion. C'est un métier où tu prends tous les honneurs quand ça se passe bien. Et encore, c'est souvent tes joueurs. Mais par contre, quand ça se passe mal, c'est sur toi qu'on tape.
Donc il faut reconnaître. Mon exemple, c'est beaucoup plus dur pour la cellule familiale. Parce que la cellule familiale, contrairement à nous, elle lit tout, elle entend tout, et donc elle voit son mari ou son père se faire massacrer à longueur de journée, et ça c'est difficile à vivre.
Et comment tu protèges sa famille justement, parce qu'on
arrêtez de tout lire, arrêtez de taper mon nom tout le temps pour savoir ce qui se dit sur moi, ou arrêtez de mettre des alertes, ou voilà, vivez votre vie tranquille, et vous souciez pas de ce qui se dit.
Mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire ça, parce que sur le papier, quand tu sais que ton papa, ta maman vont pas bien parce qu'ils sont entraîneurs, qu'ils se font taper dessus par tout le monde,
même à l'école, j'ai connu le contexte de mes enfants à l'école qui se faisaient tenser par leurs camarades, j'ai connu ça. Mais ça fait partie de notre boulot, de dire qu'il faut nous plaindre, non, surtout pas, mais dire que c'est compliqué, oui, bah, acceptons-le, c'est un métier compliqué, c'est aussi pour ça qu'on le fait.
Et pour tout le monde.
C'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est aussi pour ça que les entraîneurs sont en règle générale bien payés également, moins bien payés que les joueurs, mais ça c'est normal puisque les carrières d'entraîneurs sont plus longues que la carrière.
Ça dépend quel entraîneur. Oui, ça dépend quel entraîneur. Les enfants d'arbitres aussi ne doivent pas vivre des journées à l'école.
Je suis d'accord, sauf que t'as pas l'article où
quand il y a une campagne de presse, mais une campagne contre un arbitre, comme ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde de rugby après le match entre la France et l'Afrique du Sud, monsieur.
Ça doit être difficile.
Menace de mort qui venait du monde entier pour les enfants, pour son épouse, ça aussi, c'est des moments terribles.
Je suis d'accord, mais des gens en général, ils sont un peu moins connus et c'est des moments ponctuels. Ouais. Un coach, c'est la pression à chaque fois. C'est-à-dire que tu gagnes, encore une fois, on ressent tes joueurs, tu perds, tu te fais tirer dessus à boulet rouge.
Coupé.
Un entraîneur, Julien Beneteau, comment tu perçois cette histoire quand on parle d'automutilation?
Moi j'ai dit qu'il fallait pas les plaindre parce que ça reste un métier de passion et on a de la chance de faire un métier de passion. On est passionné par le sport, par le tennis, par le foot. Que oui, je parle pas pour moi, je parle plutôt sur les entraîneurs de foot qui au quotidien ressentent de la pression, en subissent, mais aussi la cherchent. C'est ce qui nous fait avancer quand on connaît ça. On adore ça.
C'est ce qui te rend vivant,
bien sûr, exactement. Ils ont, comme l'a dit Pascal, dans le football, ils sont très bien rémunérés. Que certains, quand ils en peuvent plus ou quand ils ressentent une certaine fatigue, ont le choix d'arrêter. Regardez Jürgen Klopp, il a pris le choix de pas continuer sur le banc de Liverpool, de prendre des mois sabbatiques et là, de prendre un poste un peu plus tranquille de consultant au sein de la maison Red Bull. Donc on ne les plaint pas, on ne les plaint pas, mais on sait que c'est difficile parce que ils ont envie de bien faire, qu'ils se mettent une pression, qu'ils ressentent de la pression.
Mais au-delà que ce soit difficile, Pascal, on dit souvent que quand on est entraîneur, on est un peu barjo quand même dans sa tête. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter des choses que le commun des mortels n'arrive pas à accepter. Non, mais c'est
parce que
bon barjo même.
Parce que oui, on est nombreux dans nos têtes certainement, mais c'est comme ça. C'est comme le dit Julien, un métier de passion. Est-ce que tu peux raisonner convenablement quand t'es passionné? Ça la question, la passion elle emporte tout. Et c'est très difficile, mais très difficile aussi quand cette passion, eh bien elle t'est enlevée. Donc moi j'ai souvent tendance à dire à mes jeunes collègues entraîneurs, on se protège pas assez cependant. Parce que un joueur a un problème avéré, ben on va essayer, parce que c'est toujours sous le volontariat, de le conduire vers un psy. Mais nous, on pense jamais. Un entraîneur ne pense jamais à lui. Parce qu'il a tellement de personnes à qui penser, ses joueurs, son staff, le staff médical, qui s'oublie. Et il faut faire attention et il faut de temps en temps savoir vider sa cuve. C'est-à-dire se prendre, se ménager des espaces-temps pour souffler, pour s'adonner à une autre activité que celle du football.
Les coachs, ils ont besoin d'être coachés. Ils ont,
mais on oublie. Parce qu'on a trop de fierté.
Toi, en fait. D'être tranquille, de penser à autre chose de temps en temps. Et il faut une soupape de sécurité.
Mais crois-moi, c'est très dur de penser à autre chose.
Oui,
parce que t'es dans une machine à laver. T'es dans une machine à laver constante pendant 10 mois. Mais cela dit, ça c'est pas suffisant comme argument pour qu'on soit plein.
Oui.
Ok. Bah, voilà. Bon bah voilà, vous êtes tous d'accord et vous avez pu rectifier les choses après cette scène en tout cas importante.
Coupe-toi les ongles, Pascal.
Guardiola, si tu regardes, il est toujours. D'ailleurs, c'est je trouve inesthétique de la part d'un entraîneur de ce rang-là. Il est toujours avec un petit truc de salive là. Il joue avec la salive et il crache tout le temps.
Je suis sûr
qu'il est. Il s'en rend même pas compte tellement il est pris.
Ça me fait penser à Joachim Löw. Vous vous souvenez pas?
Ouais, sur le nez lui.
Pas que le nez d'ailleurs. Et en direct à la télévision. Allez voir les vidéos, tout ça, je ne vais pas tout vous raconter. C'est quand même le matin, vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. 10h43, allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler, pour vous conter un procès assez hors norme, le procès de la séquestration de Paul Pogba. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h46, de retour dans les grandes gueules du sport à partir de 11h. Un débat philosophique, quoique même pas. On va parler des équipes de France de foot et de rugby. Le 15 de France peut-il prendre la place de l'équipe de France de football? C'est un débat dans l'air du temps après le mois de novembre que nous venons de vivre. On en parle à partir de 11h, donc n'hésitez pas à composer le 32-16.
RMC, le dossier des GG.
Le dossier aujourd'hui des GG, c'est le procès de la séquestration de Paul Pogba, un procès qui s'est ouvert mardi devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. 5 amis d'enfance et l'un des frères de l'international français comparaissent pour extorsion, enlèvement et séquestration dont il a été victime en 2022. C'était le 19 mars, en marge d'un rassemblement avec l'équipe de France. Paul Pogba est à Paris, il en profite pour récupérer une de ses voitures à la Fourrière. Ses amis d'enfance le conduisent finalement dans un appartement, deux individus cagoulés et armés interviennent, jamais identifiés, ils surgissent, ils réclament 13 millions d'euros au footballeur. Paul Pogba promet de payer, sans succès, auprès de sa banque. L'international français est ensuite transféré à la Juventus quelques mois plus tard. Ses amis d'enfance viennent lui rendre visite, pas forcément une visite de courtoisie, ils lui demandent de payer, ils lui mettent la pression. Une plainte est finalement déposée à l'été 2022. C'est le début de l'affaire Paul Pogba. La question est évidemment de savoir si ses amis étaient de mèche avec les deux individus cagoulés. Nicolas Pelletier, notre journaliste RMC Sport, qui suit ce procès à Paris depuis 4 jours, est avec nous. Bonjour Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Raconte-nous donc les temps forts de cette première semaine.
Le petit groupe sur le banc des prévenus connaît parfaitement Paul Pogba. Parmi eux, 4 amis d'enfance, une bonne connaissance du joueur et surtout son grand frère Mathias. Ces 4 premiers jours du procès ont surtout montré une grande générosité de l'international français avec les 6 prévenus. Quand la procureure questionne l'un d'entre eux sur ses ressources financières, Adama répond « Paul faisait des virements, il était là en cas de besoin ». Mais en début d'année 2022, Paul Pogba se détache de ses amis d'enfance et surtout, il alimente beaucoup moins les projets présentés par les prévenus. La présidente du tribunal essaye donc de comprendre si les maîtres chanteurs présumés sont entrés en action à cet instant-là. Boubacar raconte une scène sur le chemin de Clairefontaine où Paul Pogba sort plusieurs milliers d'euros d'un sac à dos et le joueur va remettre 15 000 euros à chacun de ses amis dans la voiture. Il me donne et me dit « tu donneras un peu à tata et à tonton », explique Boubacar à la barre. L'épisode du magasin Adidas interpelle aussi le parquet où certains des prévenus sont repartis avec plus de 57 000 euros d'articles dans un camion grâce au partenariat de Paul Pogba avec la marque. L'organisation de la nuit de la séquestration le 19 mars 2022 est longuement évoqué. Un prévenu décrit l'arrivée de deux hommes armés dans le logement. Sur cette scène centrale du dossier, les versions divergent. Une rançon de 13 millions d'euros sera réclamée par les deux hommes cagoulés pour avoir assuré la protection de Paul Pogba pendant 13 ans. L'international français avait la voix tremblante, explique l'ami d'enfance. Puis l'un des deux individus charge son arme pour augmenter la pression. Au moment où ils ont chargé, Paul va dire « je vais payer », détaille le prévenu. Comment les deux hommes ont-ils été informés de la présence de la star des Bleus à cet endroit? Le tribunal n'a toujours pas la réponse. À la barre, les 5 premiers prévenus interrogés confient avoir toujours peur des représailles dans ce dossier. 5 individus risquent 10 ans de prison. Mathias Pogba, qui n'était pas présent le soir de la séquestration, risque 7 ans de détention. Le procès reprendra mardi matin avec l'audition très attendue du grand frère de Paul Pogba.
Mardi matin, donc Paul Pogba, le frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, parlera donc devant la chambre du tribunal correctionnel de Paris. Vous pouvez suivre évidemment minute après minute tout ce qui se passe dans ce procès sur rmcsport.fr avec Nicolas Pelletier. Déjà un premier mot, quand vous entendez, quand vous lisez ce qui se passe autour de Paul Pogba dans ce dossier, qu'est-ce que ça réagit comment en vous, Julien Beneteau?
Moi, j'ai de la tristesse pour Paul Pogba. Un peu de dégoût aussi. Quand on parle d'amis d'enfance, c'est pas ça des amis. Amis d'enfance qui viennent à la Juventus, qui viennent à Turin quand Paul Pogba a signé à la Juventus pour lui demander de l'argent. La relation d'amitié est bien différente de celle que je m'en fais. J'ai beaucoup de tristesse qui se retrouve au milieu, à devoir être au centre de tout cela, de devoir payé, j'ai l'impression qu'il était généreux à un moment donné avec son entourage.
Il l'a dit dans ses auditions, je ne savais pas dire non.
Voilà, il a le droit et c'est même plutôt une qualité. Et cette générosité se retourne contre lui parce que il faut pas confondre quand il donne. Alors les sommes sont délirantes, mais elles sont en corrélation avec son niveau de vie, avec ses revenus. Mais il faut faire une différence entre donner de l'argent à un ami, quelle que soit la somme, aussi énorme soit-elle, et après être sollicité tout le temps dès qu'ils ont un projet à deux balles.
Ouais, mais le problème, c'est pas justement à partir du moment où tu donnes de l'argent, tout le monde croit que c'est un dû, et à partir du moment où c'est un dû, ben, tu vas lui demander, il refuse enfin parce qu'il a la force de dire non, et là,
ça. 13 millions, ça commence non, mais, à faire.
T'as plus de notion d'amitié, t'as plus de notion de rien, en fait, tu veux récupérer de l'argent.
Parce qu'il a été protégé, mais protégé de quoi? Il a besoin d'être protégé de quoi, Paul Pogba? Il signe dans les plus grands clubs d'Europe. Il est salarié de son club.
Il peut s'offrir tous les gardes.
Il peut s'offrir les gardes du corps.
S'il en a besoin, ça lui coûtera moins cher. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant qu'ils doivent payer pour être protégé. Mais
Pascal, toi qui viens de ce milieu du foot, est-ce que quand tu lis
consterné.
Est-ce que tu arrives à être surpris ou pas?
Non, consterné, mais pas surpris. Mais consterné à double titre, parce que vous parlez des amis.
Et la famille aussi.
Il y a la famille aussi. Ouais. Et ça, franchement, pour ma part, c'est nouveau. J'ai déjà eu vent de certaines histoires similaires à celles de Paul Pogba, avec des sommes beaucoup moins élevées. Mais cela dit, la famille, parce que si un de ses frères est encore aujourd'hui dans le box des accusés, même s'il est présumé innocent, bon, s'il est là, c'est qu'il y a quand même des choses à lui reprocher, certainement.
Mais Pascal, toi, est-ce que tu as déjà vu avec des joueurs, voilà, une pression de l'entourage sur l'argent? Est-ce que toi, t'as déjà assisté, même si t'es pas aussi grave qu'une séquestration, mais est-ce que t'as déjà assisté à ce genre de choses?
Souvent, c'est souvent les joueurs de foot, de plus en plus aujourd'hui, on a vu donc, on va dire, l'apparition des amis qui arrivaient en bande, un agent,
un faux agent,
souvent, et un faux agent et quelques agents et les amis qui sont autour de cet agent-là. Et puis à un moment donné, les amis qui veulent s'émanciper, prendre la place de l'agent. J'ai assisté à ces histoires-là où les joueurs étaient embarrassé, pour le moins, de devoir, à un moment donné, choisir entre un agent licencié et des amis qui faisaient office d'agent. Ça donnait lieu à
T'as peur de tourner le dos à ceux qui étaient avec toi au début, voilà. Ceux qui t'ont accompagné, et c'est très difficile de se dire d'un seul coup, ok, l'amitié, c'est bien, ok, je suis là un peu grâce à eux, entre guillemets, parce qu'ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné, ils ont été présents dans les moments difficiles, sauf qu'à un moment, il faut se rendre compte qu'on devient professionnel et qu'ils peuvent pas tout gérer.
Dans un vestiaire, tu l'as déjà vu, toi, Fred?
Alors moi j'ai un ami qui a vécu ça, mais c'est difficile de déterminer si c'est lui qui l'a voulu parce qu'au début il a été trop généreux ou si on l'a obligé. Mais moi j'ai un de mes amis qui, tant qu'il jouait au basket, il était obligé à chaque fois qu'il allait voir ses amis de tout donner, de leur laisser toutes ses fringues, etc., et donner de l'argent, évidemment. Mais quand il a été arrêté, il s'est retrouvé dans des situations très difficiles au RSA. Il a menti à tout le monde en prétextant qu'il continue à gagner de l'argent. Il continue à envoyer de l'argent à tout le monde, et avant de partir revoir ses amis et sa famille, il s'achetait des fringues neuves parce qu'il savait qu'il reviendrait pas avec. C'est-à-dire qu'en gros, il se mettait une telle pression qu'il achetait des affaires alors qu'ils n'avaient plus une thune, juste pour sauver la face.
Mais quoi, il faisait des crédits?
Il faisait des crédits, il faisait attention, il empruntait de l'argent à droite, à gauche pour ne pas passer pour l'enfant indigne qui régalait pas tout le monde, quoi. Donc je sais pas si c'est la pression sociale ou si ses amis lui mettaient la pression, mais en tous les cas, en tout état de cause, il avait pas une thune et il a dépensé pour les autres, en fait.
Ok, Pascal, tu voulais ajouter rapidement?
Oui, parce qu'il y a donc on vient de parler du cercle familial, du cercle amical, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour des conseillers en placements patrimoniaux et financiers. Et je connais bon nombre de joueurs qui se sont vus spoliés, mais complètement spoliés, toutes leurs économies par des faisant des marchands de boniment. Donc, d'où l'importance d'avoir une garde rapprochée quand on gagne de l'argent, quand on est sportif professionnel, suffisamment fiable pour vous aiguiller, parce que vous n'avez pas le temps de penser à tout quand vous êtes un sportif souvent très très jeune et qui commence à gagner beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous avez besoin de vous entourer de personnes compétentes et fiables.
On le voit là dans le foot, ça arrive évidemment dans d'autres sports, dans le tennis.
Dans le basket énormément. Dans le basket énormément, ouais. Il y a énormément de basketteurs qui sont ruinés avant la fin de leur carrière parce qu'ils ont arrosé tout le monde.
Ok, ouais. Donc le tennis c'est un peu plus rare, j'imagine.
Ouais, c'est un peu plus rare.
On sent plus structuré aussi.
Ouais, voilà.
C'est
pour ça, moi, je suis effaré quand j'entends des trucs comme ça. Parce que quand je voyais parce que pour moi, Pogba, c'est pas Djoko Nadal, mais je veux dire, il a des rémunérations énormes, une notoriété, des choses comme ça. Quand je vois comment eux, ils sont structurés et quels sont les personnages qui les entourent sur les tournois tout au long de l'année, etc. Et quand on voit, et quand on lit, et quand on entend ce qui se passe dans le milieu du foot, moi, je suis effaré.
Bon, je sais pas si c'est un cas isolé ou si ce genre de choses arrive régulièrement.
Non, mais quand
c'est
grave,
ça arrive souvent. Christophe, crois-moi.
Il fait vivre tout le monde. C'est pareil pour moi.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Sachez évidemment que pour tout connaître sur ce procès, rmcsport.fr où tout vous est compté, chers auditeurs. On se retrouve dans quelques instants pour opposer le rugby au foot. Tiens, ça faisait longtemps. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.